Vous reconnaissez ce bruit ? Vous avez l'habitude de l'entendre. Oui, c'est bien le bruit de l'eau qui coule au robinet. Eh bien, sachez qu'en ce moment, les Mahorais, eux, ne l'entendent qu'un jour sur trois à cause d'une pénurie d'eau potable à Mayotte. Comment s'explique-t-elle ?
Déjà, les canalisations qui acheminent l'eau potable sont vieilles et abîmées, ce qui crée des fuites. 35% d'eau potable est ainsi perdue. Qu'est-ce qui a été mis en place pour faire face à ce problème ?
Le ministre des Outre-mer, Philippe Vigier, a décidé d'engager des travaux d'urgence. Forage, recherche de fuites, interconnexion des réseaux, mais cela va prendre du temps. La situation ne devrait pas revenir à la normale avant 2024. Vous vous imaginez, vous, dans cette situation ? Sans eau potable, un jour sur trois jusqu'en 2024 ? Moi non, je m'énerve déjà quand le plombier coupe l'eau le temps de réparer le robinet. Les Mahorais attendent les packs d'eau gratuits promis pour la mi-novembre.
Vous pensez qu'ils auront assez d'eau pour tenir jusqu'en 2024 ? Aujourd'hui, on ne peut pas savoir, mais chacun a son opinion. Mais dites-moi, est-ce qu'une telle situation ne pourrait pas aussi arriver en métropole en raison de la sécheresse ou d'une pollution de l'eau ? Quelles sont les solutions qui pourraient éviter qu'une telle pénurie d'eau potable se produise dans les régions en France métropolitaine ?
On peut réduire la consommation d'eau potable en imposant les restrictions d'eau. Cet été, la sécheresse a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On n'avait plus le droit de remplir nos piscines. On doit aussi penser à faire attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on cultive. On sait que certains modes de production consomment moins d'eau que d'autres et les agriculteurs se tournent vers de nouvelles cultures.
Il existe aussi des récupérateurs d'eau de pluie. On peut se servir de l'eau de pluie ainsi collectée pour arroser son jardin ou son potager. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre plombier local ou à vous renseigner auprès de votre commune.
Merci de nous avoir écoutés.
Qu'est-ce qu'un atelier de réparation ? Qu'est-ce qu'on peut y faire réparer ? Et quels sont ses avantages ? Un atelier de réparation est un endroit où l'on prépare soi-même son objet. Ces objets peuvent être de tout type : mobilier, carrosserie, électronique, électroménager, et d'autres objets du quotidien. Ces ateliers ont plein d'avantages. Ils permettent de créer un lien social avec les autres adhérents, mais également de moins polluer la planète, ainsi que de payer moins cher. C'est aussi un secteur créateur d'emplois durables pour les personnes en réinsertion.
Si l'on prend l'exemple du smartphone, il est plus intéressant de le faire réparer ou de le réparer soi-même plutôt que d'en racheter un neuf. En effet, cela permet de diminuer la production puisque chaque tonne de matériaux fabriqués produit une tonne de déchets et 75 000 litres d'eau polluée. De plus, ces ressources utilisées pour fabriquer nos appareils sont rares et la plupart ne sont pas recyclables. Seulement 17% des pièces utilisées sont recyclées correctement.
Dans un Report Café, en Mayenne, on peut par exemple réparer sa machine à café afin de subvenir à ses besoins. Ou alors, on peut décider d'aller dans des ateliers d'auto-réparation, dans lesquels se regroupent professionnels, bénévoles, aidant à la réparation des objets, en leur donnant une seconde vie, une nouvelle réutilisation, afin de les remettre en état de fonctionnement et d'acquérir des compétences. Dans un self-garage, dans le Maine-et-Loire, on répare toujours accompagné d'un pro son véhicule. On peut faire de même avec son vélo ou sa trottinette. Et donc, bénéficier de conseils et apprendre les techniques de base.
Mais si on ne veut pas réparer soi-même son objet, il existe d'autres circuits qui permettent de leur donner une seconde vie. On peut aller à Emmaüs, qui est un endroit où l'on donne son objet. Là-bas, ils le trient, le réparent et le vendent. On peut aussi aller chez des entreprises comme Happy Cash où l'on vend son objet, il est réparé puis revendu.
On peut aussi aller dans une ressourcerie, une recyclerie, un comptoir de dons où l'on répare son objet, puis on l'achète d'occasion et donc on favorise la seconde main.
Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter notre site internet si vous voulez plus d'astuces et suivez-nous sur les réseaux. La suite au prochain épisode.
Vous le savez, on est très souvent sur nos téléphones, mais connaissez-vous les conséquences du numérique sur l'écologie ?
Pour commencer, il faut savoir que les mails polluent plus que les SMS. Car oui, les SMS utilisent du carbone et si on les compare en empreinte carbone, un mail utilise 4 g de CO2, alors qu'un SMS utilise 0,014 g de CO2. Aussi, un mail avec une pièce jointe à l'intérieur peut montrer jusqu'à 50 g de CO2. En moyenne, 80% des mails ne sont jamais ouverts et il y a actuellement environ 281 milliards de mails dans le monde. Ça génère 410 millions de tonnes de CO2. Par exemple, envoyer une photo de vacances de 1 MO à 10 amis équivaut à environ 500 mètres en voiture. Alors tout ça nous mène à quoi ? Et oui, votre téléphone, votre ordinateur doivent être construits et pour cela, 62,5 millions de tonnes de matériaux sont utilisés pour les construire et tout ça chaque année. Et comme ressources utilisées, il y a des minerais, dont des terres rares comme le cerium, sandium, etc. Et le problème, c'est que l'extraction des minerais sont une catastrophe pour l'écologie car il y a des produits toxiques qui polluent et sont rejetés plus tard. Il y a aussi les déchets du numérique qui sont extrêmement dangereux pour l'environnement car ces déchets polluent l'eau et le sol et cela peut provoquer des cancers.
Pour réduire les empreintes carbone, on peut trier la boîte mail, privilégier les SMS au mail, utiliser une application pour trier la boîte mail automatiquement. Si on envoie une pièce jointe, on peut la compresser. Et on peut aussi essayer de réduire le nombre de matériaux utilisés par année en mettant moins de ressources mais qui peut marcher tout aussi bien. Ou alors de réutiliser des objets au lieu de les jeter, même s'ils ne servent plus, ils peuvent encore fonctionner correctement.
Vous êtes-vous déjà demandé où finissait votre pot de yaourt après l'avoir mise à la poubelle ? On vous explique. En France, c'est la FNADE, donc la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement, qui s'occupe du recyclage en général. Mais alors, comment ça fonctionne ? Bon, déjà, les déchets sont répartis dans différentes poubelles de couleurs en fonction de leur matière. Verte pour le verre, jaune pour les emballages plastiques, bleu pour le papier ou carton, et la noire pour les ordures ménagères. Ça, c'est la base. Et heureusement que nous avons autant de poubelles de recyclage, car un Français jette en moyenne 500 kg de déchets chaque année, ce qui est considérable.
Pour comprendre comment le recyclage fonctionne, il faut s'intéresser à comment les déchets sont transformés. Tout ça est basé sur un procédé un peu complexe. Pour les papiers, cartons ou briques alimentaires, ils sont broyés et brassés dans une cuve remplie d'eau pour séparer les fibres de cellulose et d'autres matériaux. La bouillie est ensuite passée dans une sorte de tamis afin d'enlever les impuretés. À la fin de cette opération, les matériaux passent au desséchage et au séchage. Mais pour les plastiques, c'est une autre histoire. Il est possible de recycler entre une à quatre fois en fonction de la sorte de plastique, mais elles ne sont pas toutes recyclables. Cela engendre donc 91% des déchets plastiques non recyclés. Il est fabriqué à partir de matériaux non recyclables comme du charbon. Donc la fabrication n'est pas indéfinie non plus, ce qui ne fait que retarder son incinération.
Il faut savoir aussi que le recyclage est polluant, et oui, car c'est les usines qui se chargent des étapes de recyclage et elles utilisent donc de l'énergie. Mais forcément, le recyclage reste mieux que de laisser nos déchets traîner dans la mer par exemple. Pour finir positivement, l'idéal serait de favoriser le vrac plutôt que prendre nos produits dans des emballages superflus, d'éviter la surconsommation, de faire un maximum de recyclage dès que possible, même pour les plus petits déchets, mais aussi de composter les déchets organiques. Merci de nous avoir écoutés, au revoir.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Greta Thunberg ? Pour énormément de jeunes, elle est le modèle de l'activisme pour le climat, qui demande aux dirigeants de prendre leurs responsabilités et de mettre en place leurs actes, car ils parlent beaucoup pour rien faire. Elle a suscité chez beaucoup de jeunes l'envie de participer à des mouvements associatifs en faveur du climat et de s'engager activement dans cette lutte contre le réchauffement climatique. À la suite du discours de Greta en 2018, elle motive des jeunes à lutter contre le réchauffement climatique et à créer une association, Youth for Climate.
Mais pourquoi les jeunes ont envie de la suivre dans ses idées ? Eh bien, tout simplement, à cause du réchauffement climatique, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu et ceux qui seront les plus touchés dans quelques années, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Et Greta sait comment les toucher à travers ses discours. Le réchauffement climatique a pour conséquence la fonte des glaciers et donc la montée des eaux. Il y a eu de plus en plus de catastrophes naturelles comme les tornades, les tsunamis ou encore les énormes feux qu'il y a eu lors des derniers étés. L'élévation des températures pourrait causer une pénurie alimentaire affectant 130 millions de personnes en Asie et avoir des conséquences graves sur la population africaine.
Donc des jeunes ont créé des associations, ont fait des manifestations, ont fait des discours pour inciter les jeunes à lutter contre le réchauffement climatique, mais ils font des actions comme des voyages humanitaires, des ramassages de déchets, des dons pour des associations pour apporter de la nourriture ou encore des objets dans d'autres pays qui en ont besoin. Heureusement, toutes ces actions ont abouti et les dirigeants commencent de plus en plus à faire des choses pour changer l'avenir de la planète.
Qui n'a jamais entendu parler du réchauffement climatique ? En 2023, le dernier rapport du GIEC a affirmé que la température à la surface du globe avait déjà augmenté de 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle.
En effet, ce réchauffement entraîne beaucoup de problèmes météorologiques comme les fortes chaleurs. Aujourd'hui, on se demande donc comment atténuer ces effets.
En 2023, on s'est trouvé confronté en même temps à plusieurs problèmes liés au réchauffement climatique, à des canicules à répétition, des catastrophes naturelles comme des tempêtes, des tornades, des inondations et des incendies. Nous nous sommes donc demandé comment, à notre échelle, nous pouvons réduire notre empreinte carbone.
Déjà, il y a des gestes qu'on nous apprend des petits et qu'on est tous censés connaître, comme éteindre la lumière en quittant une pièce, couper les multiprises quand on ne les utilise plus, éviter de faire couler l'eau trop longtemps. Aujourd'hui, on se doit de faire plus, comme d'acheter en vrac et réutiliser le même emballage. Ça évite le gaspillage et l'accumulation des déchets plastiques.
Bien sûr, et on peut aussi transformer un vêtement qui ne peut plus être porté en torchon ou serviette et réparer ou transformer un objet cassé au lieu de le jeter.
Ensuite, à plus grande échelle, si votre appareil électronique est définitivement hors d'usage, il faut penser à l'acheter en reconditionné. Il coûtera certainement moins cher qu'un neuf.
Mais oui, aujourd'hui, acheter neuf, ça revient super cher. Sinon, il faut le faire réparer au lieu de le jeter. Et pour ça, en Mayenne, on a l'entreprise Ecosystem. Elle reprend nos appareils qui ne fonctionnent plus et les reconditionne pour la vente.
Pour nos vêtements, la seconde main, c'est aussi une bonne option. Ça nous permet d'avoir de nouveaux vêtements pour pas trop cher parce qu'ils ont déjà été portés. Près de chez nous, en Mayenne, on a l'entreprise Renaissance Textile. Mais en ce moment, on parle surtout de l'application Vinted qui nous permet de vendre ou d'acheter des vêtements de seconde main.
Sinon, pour nos déchets ménagers, les déchetteries, c'est simple et accessible. Il y en a à peu près dans toutes les communes. Il y a aussi Établissement Arco. Cette entreprise située à Andoué, en Mayenne, est engagée dans la réutilisation de nos déchets. Elle récupère nos déchets pour les transformer en fils et câbles électroniques.
Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur les sites cités dans la chronique. N'hésitez pas à aller écouter nos derniers podcasts et bonne journée.
Êtes-vous un adepte de la fast fashion ? Vous en avez déjà sûrement acheté, car c'est un phénomène très répandu et très populaire dans le monde en ce moment.
Mais c'est quoi la fast fashion ?
C'est une tendance à acheter des vêtements à petit prix, avec un renouvellement très rapide des collections.
En 2021, elle avait généré environ 91 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde, et ce nombre devrait dépasser les 106 milliards fin 2023.
La fast fashion semble en effet particulièrement intéressante pour les consommateurs. Qui résisterait à l'attrait d'une nouveauté bon marché ? Elle permet de dépenser moins, ce qui est particulièrement recherché durant cette période d'inflation.
Elle paraît particulièrement adaptée pour les corps changeants, comme les femmes enceintes et les enfants qui grandissent vite.
Mais malheureusement, la fast fashion n'a pas que des points positifs. Pour vous, aujourd'hui, on a exploré l'envers du décor de Shein.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de Shein, que ce soit sur les réseaux comme TikTok ou bien sur des articles de presse. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient ces articles et quel était leur parcours avant de se retrouver directement dans vos boîtes aux lettres ?
Shein est un site internet créé en 2008 et qui livre ses produits dans 150 pays dans le monde. Ce site nous propose en particulier des vêtements à petit prix.
Shein a fait apparaître sur son site de fausses informations, comme quoi l'enseigne respectait la loi sur l'esclavage et le travail des enfants. L'ONG suisse Public Eyes a enquêté et ils ont découvert que les gens qui travaillent font partie des ouvriers les plus pauvres de Chine. Ils seraient forcés de travailler 12 heures par jour et un jour de congé par mois. Ils n'ont aucun droit.
Shein va toujours plus vite, avec de centaines de nouveautés par jour, 52 collections par an au lieu d'une par saison. En plus de ça, Shein plagie les nouveautés de nombreuses marques.
Mais oui Marceau, j'ai entendu parler du scandale sur les robes de Kylie Jenner qui ont été copiées.
En plus, les vêtements sont de très mauvaise qualité pour la plupart. Ils sont composés de matières dangereuses pour le consommateur. Par exemple, il y aurait 20 fois plus de plomb que la norme autorisée dans la fabrication du vêtement.
Donc, il faut en acheter ou pas ?
Il y a beaucoup de choses positives avec Shein, comme le bas prix et le renouvellement assez rapide. Mais pour conclure, je pense que le site n'est pas forcément bien suite aux nombreuses accusations autour de la confection de leurs produits et leurs produits en eux-mêmes.
mais c'est à vous de décider.
Pas sûr que ça soit un bon modèle durable pour la planète.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la déforestation.
Mais alors, c'est quoi la déforestation ?
La déforestation, c'est quand les hommes coupent des arbres et réduisent donc la taille des forêts. Les forêts servent à réduire la pollution et à garder l'eau sous terre.
On coupe ces arbres soit pour utiliser le bois, faire des feuilles de papier, ou encore pour les agriculteurs afin d'agrandir leurs champs, ou pour faire construire des maisons ou des routes par exemple.
En France, la déforestation ne se situe pas partout. Des endroits sont plus atteints par la déforestation que d'autres, comme au niveau du Massif central et ses environs. Et en Alsace, où elle y est plus présente.
En 2021, plus de 11 millions d'hectares de forêts ont été perdus dans les régions tropicales, essentiellement en Amazonie, ce qui fait 10 terrains de foot par minute.
Et ce qui fait chaque année 15 milliards d'arbres coupés. En plus de cela, 27 000 espèces animales et végétales disparaissent.
C'est énorme!
Mais en fait, c'est quoi l'Amazonie?
L'Amazonie est une très grande forêt qui est en Amérique. Elle est comme un poumon pour la Terre. Mais bon, revenons à nos moutons.
Les animaux ont besoin d'habitats qui leur correspondent, où ils sont en sécurité et à l'aise dans leur environnement.
Ils utilisent ces zones pour se reposer, manger, se reproduire et se cacher des prédateurs.
Mais lorsque nous perturbons leur habitat naturel, par exemple en coupant les arbres, les animaux perdent l'accès à leurs ressources et sont de nouveau exposés au danger.
Aujourd'hui, les animaux sauvages menacés sont principalement le hamster d'Europe, les lémuriens à Madagascar, le koala en Australie et aussi les orangs-outans sur Bornéo.
C'est pour ça qu'il ne faut pas détruire leur habitat.
Donc ne pas couper les arbres et ne pas participer à la déforestation.
Qu'est-ce que les éco-délégués ? Nous avons reçu beaucoup de questions de parents d'élèves, donc nous allons essayer d'y répondre au mieux.
Alors, il faut savoir déjà que les éco-délégués, ce sont un ou bien deux élèves qui vont représenter leur classe dans le but de les sensibiliser à tout ce qui touche l'écologie, donc par exemple réduire la pollution, les déchets, éviter le gaspillage alimentaire, etc. Ces deux élèves, ils vont être élus pour toute l'année par leur classe et vont représenter leurs camarades sur ce qui concerne la protection de la biodiversité ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique.
Et alors, comment ils s'y prennent ces éco-délégués pour informer et prévenir les élèves de leur classe ?
Eh bien, ils se réunissent entre eux pour décider de ce qu'ils vont présenter, puis ils peuvent créer des affiches, par exemple, ça peut être sur la limitation de la consommation d'énergie, qu'ils vont distribuer ou montrer au lycée, ou alors ils vont se déplacer dans des salles et faire un exposé. Tout ça dans le but de mettre en place des bonnes actions, tout simplement.
Alors justement, quand tu nous dis de mettre en place des bonnes actions, c'est-à-dire qu'ils réalisent vraiment ce qu'ils proposent ?
Oui, tout à fait. Moi, je sais par exemple que dans certains lycées, on participe à des clean walk en ville, donc autrement dit le ramassage des déchets. Ils peuvent aussi faire installer, pourquoi pas, des poubelles de tri au sein du lycée, aménager des jardins, ainsi que plein d'autres actions comme ça, qui vont faire que les élèves vont venir se sentir responsables du bien-être de leur lycée, de sa propreté notamment.
Oui, et d'ailleurs Marine, parle-nous de ce que les éco-délégués ont fait dans ton lycée.
Je me souviens que les éco-délégués avaient fait pas mal de choses pour sensibiliser les classes aux gestes quotidiens. Alors moi, j'étais au lycée Victor Hugo à Château-Gontier et je sais qu'ils se réunissaient à la mairie. Ils s'étaient rendus au festival alimentaire et ils avaient également visité une usine de méthanisation qui s'appelle Biogaz. Et il paraît que c'était très intéressant.
Les éco-délégués et l'engagement de leurs établissements dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'était l'explication de leur rôle. Merci beaucoup Aglaé et Marie.